Elle a la passion communicative des livres et c'est aussi une fille hyper connectée qui a plusieurs fois invité des membres de l'équipe de CPU pour faire des animations sur le numérique auprès du grand public à la médiathèque José Cabanis. Et c'est forcément au milieu de livres en tout genre. Je peux vous dire en tout genre, je ne sais même pas ce qui... sous la main, voyons. Modo Nagy, La tapisserie de Bayeux, Blossfeld, Didier Ribon, Édouard Louis présente Didier Ribon Retour à Reims et aux collections Essais de chants. Bref, c'est vraiment au milieu de livres en tout genre que nous avons la joie de recevoir IRL. Enfin ! Quelle année 2020 qui a été longue ! Et quelle intro qui est avec digression, c'est donc forcément avec cette joie non retenue que Charlotte Hénard nous reçoit, responsable des services au public et de la politique d'accueil à la médiathèque José Cabanis de Toulouse, bibliothécaire francophone de l'année 2020, amatrice de bibliotourisme et peut te citer chaque animal de l'éditeur Aurélie.
CPU, carré petit utile.
Pour commencer, Charlotte, très sincères félicitations pour ce prix de bibliothécaire francophone de l'année 2020. Est-ce un honneur parce que c'est la première fois que le prix est décerné, parce que c'est un prix qui est décerné par tes pairs, ou une déception parce que en 2020
Oui, alors là, c'est de la triche comme question. C'est forcément un honneur parce que c'est une validation par les pairs. Ça m'a beaucoup touchée. Je n'en reviens toujours pas, d'ailleurs. Je reste très étonnée et très touchée, flattée d'avoir reçu ce prix de la part de l'AIBD.
Et c'est énorme. Littéralement, ça a été de la surprise énorme.
Ah oui, ça a été la surprise de l'année, ouais. Puisque en fait, je n'étais pas au courant que j'étais prénominée. Nous étions plusieurs à avoir été sélectionnés, présentés par les pairs, mais j'ignorais totalement que je faisais partie de la shortlist.
Et il y avait des hauts fonctionnaires du ministère de la Culture, mais il y avait aussi pas mal de bibliothécaires d'Afrique francophone, et qu'il faut saluer d'ailleurs,
oui.
Parce qu'ils ne les écoutent sûrement pas. D'abord, pour commencer, quel livre t'a ému la première fois ?
Alors là, ça, c'est une colle. Je ne me souviens pas. Ce que je pourrais dire de mon expérience de la lecture, de mes premières expériences de lecture, c'est que ma mère, quand j'avais 7 ou 8 ans, a été convoquée par la bibliothécaire de Châtenay-Malabry, où j'habitais à l'époque. Lui a demandé de venir et lui a dit « Écoutez, maintenant, ça suffit. Il faut que vous m'expliquiez ce que vous faites avec ces livres. Il n'est pas possible que votre fille lise autant. » Et ça, ça a été le début, en tout cas, de mon histoire avec les bibliothèques.
Génial comme anecdote.
Mais pour le...
Ça aurait été un fils, ça aurait passé peut-être.
Ah non, parce que la fréquentation des bibliothèques est plutôt féminine, globalement.
D'accord. Ok.
Et tous les chiffres le confirment, la lecture est plutôt une activité féminine.
Et quelle première bibliothèque fréquentais-tu et comment ?
Alors, je fréquentais la bibliothèque de Châtenay-Malabry, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine.
C'était j'imagine... scolairement, c'était hors école.
Non, c'était pour le plaisir. J'imagine le mercredi, le samedi, ça faisait partie des sorties qu'on pouvait faire quand on était une petite fille en banlieue parisienne, dans une cité... dans une cité du 92, on allait à la bibliothèque. Bon, voilà.
Plutôt qu'aller dans la galerie marchande du Franprix et tout ça.
C'est ça, exactement.
Galerie marchande du Franprix, non, ça te...
Non, c'était pas...
Faudra expliquer aux Toulousains ce que c'est que Franprix, mais ils s'en foutent.
Non, puis à l'époque, c'était à l'époque où Vélizy a commencé à ouvrir, mais moi, j'allais pas à Vélizy.
Avec la FNAC.
J'allais à la FNAC quand j'étais petite, mais la FNAC d'avant. Celles qui étaient coopératives.
Des cadres.
Où les gens donnaient des avis éclairés et indépendants sur le matériel, la littérature, les disques, tout ça.
Mon Dieu, que ça a changé.
Et ça, je pense que ça a contribué à me donner envie de travailler en bibliothèque aussi.
Quel a été ton parcours, formation et professionnel ?
Formation, rien de très original, d'abord des études de lettres, lettres modernes à Bordeaux, puis un diplôme de bibliothécaire. J'ai été embauchée le soir même. Le soir où j'ai passé mon diplôme, je suis sortie de mon oral en larmes, avec le sentiment d'avoir tout foiré. Et la bibliothèque de Lyon, à l'époque, recrutait des vacataires. J'ai lu la petite annonce, j'ai appelé et au flanc, j'y suis allée en disant « Écoutez, je suis de Bordeaux, je prends mon train ce soir à 20h, est-ce que vous pouvez me recevoir pour un entretien ?» Et le directeur de l'époque a bien voulu me recevoir à 19h à l'époque et m'a recrutée donc pour 2 mois. Et finalement, j'y suis restée quelques années.
Énorme. Et en études de lettres, tu étais quoi? Plutôt ASCII, ISO latin 1, ISO latin 15, code page je... Windows 850 ou Unicode?
Je ne comprends rien de ce que tu me racontes.
Ouais, mais... désolé, on est une émission technique. On aime les questions qui fâchent.
Alors,
un peu.
Après des études de lettres, donc j'ai commencé à bosser et assez rapidement, j'ai repris des études. Mmh. Et là, j'ai fait une maîtrise en infocom et j'ai appris à faire des sites Minitel. Ce qui signe quand même un peu mon âge.
Ouais.
Je suis un peu vieille, autrement dit.
J'en ai fait moi aussi. Ça va.
Donc j'ai appris à faire du catalogage avec des machines à écrire. Et j'ai réussi à fabriquer des pages Minitel à une époque où ça s'enseignait à l'université. À Lyon 2 à l'époque.
Un petit peu de Stum 1, si je te dis Escape, Crochet, B majuscule.
À tes souhaits.
De mémoire, c'est pour la couleur violette. Comment as-tu approché un ordinateur pour la première fois? Donc, c'était justement dans ces études?
Alors, la première fois que j'ai touché un ordinateur, je m'en souviens très bien, c'est le premier jour où j'ai... C'était pas exactement un ordinateur. La première fois que j'ai dû manipuler pour des raisons autres que la distraction, c'était pour passer un concours, justement, où j'avais récupéré une espèce de machine à écrire qui était quasiment un ordinateur
portable. Ouais,
les
machines de traitement de texte.
Voilà, ouais. Les premiers traitements de texte.
Avec l'écran LCD, tu tapes le texte
c'est
et
ça.
À la fin de ligne,
c'est
il imprime.
Ça. Ouais. C'est ça. Je crois que j'ai évidemment foiré ce concours. Je ne sais pas si c'est dû à la machine. Et après, il se trouve que mon père avait une drôle de manie. Il était, entre autres choses, aquariophile. Fabricant de petits soldats de plomb. Et aussi,
pas peintre en aquarelle, oui.
Voilà, et il avait la manie de récupérer des vieux ordinateurs et de les réparer. Donc j'ai commencé avec un TO-7, je crois. Et j'ai commencé à faire du MS-DOS.
Avec le crayon tic et tout.
Voilà, assez basiquement.
Quand on se poche sur le métier de bibliothécaire, on remarque vite qu'il y a en fait encore plus de logistique que pour un libraire.
Oui, en effet.
Et pourtant, libraire, entre les offices, les retours et tout ça, c'est délire.
Ouais, c'est la partie la plus méconnue du métier. Pour que les usagers puissent emprunter des documents, faut les mettre en rayon, il y a ce qu'on appelle le circuit du livre, il faut les identifier, les acheter, les commander, les réceptionner, les estampiller, puis les décrire, les rentrer au catalogue, les indexer. Et ensuite, il faut les mettre à disposition du public. Toute cette chaîne du livre, c'est la première des logistiques, est déjà assez importante
assez
en soi.
Ouais.
Voilà ce que font les bibliothécaires qu'on ne voit jamais et qu'on n'imagine pas. Et puis ensuite, il faut les mettre en rayon, les valoriser et faire le pont entre l'usager et le document, puisqu'on ne parle pas que de livres en bibliothèque. Et ça, eh bien, pour que vous puissiez vous emprunter des ouvrages, il faut qu'on ait fait tout ça et surtout qu'ils soient dans les rayons au bon endroit, qu'on puisse les retrouver à l'endroit où ils doivent être. Et pour que vous puissiez les emprunter, il faut ensuite les ranger, les équiper, leur mettre une puce RFID, leur mettre un code barre et puis aussi les mettre en valeur et les ranger quand vous les rendez.
Et tamponner, double tamponner la fiche de retour.
J'ai connu ça, mais bon, passons à autre chose quand même, parce que ça fait vraiment du 20e siècle comme
oui, tout
comme
à fait. Ça pèse combien un mètre de rayonnage linéaire de livres?
Alors, je sais pas, mais je peux te dire qu'une rangée sur un chariot, ça fait à peu près 40 livres multipliés par 6. Voilà, contenance d'un chariot. Et après, j'ai été amenée à faire des calculs de tonnes au moment de l'automatisation, du calcul de poids au moment de l'automatisation des prêts à la médiathèque. Mais là, je ne m'en souviens pas. Mais c'est assez lourd. On a été amené à faire des calculs de moyenne comme ça entre les disques qui sont très légers et les dictionnaires qui sont très lourds, mais j'ai plus le chiffre en tête.
Et oui, un disque To Be Free pèse moins lourd qu'un recueil de pensées d'Éric Zemmour, c'est dire. Est-ce qu'il y a des muscles qu'on découvre du coup à force de trimballer des livres ?
Eh bien oui, parce qu'en bibliothèque, on connaît très bien les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. C'est une des choses sur lesquelles on travaille beaucoup quand on est quand on travaille en bibliothèque, oui, parce qu'on prend soin aussi de nos collègues. Et on a effectivement des affections physiologiques quand on travaille en bibliothèque, et on pratique notamment beaucoup le tennis elbow, qui est dû en fait à ce mouvement qui ressemble à celui du tennis pour ranger, saisir l'ouvrage sur le chariot et le ranger à sa place.
L'articulation entre le bras et l'avant-bras. Voilà. Du coup, d'intervenir sur les plans d'architecte en disant le plancher ne va pas tenir suffisamment en charge par mètre carré, ou il y a des meubles spéciaux pour bibliothèques. Non, mais parce que je pose ça, parce que moi j'ai mes bibliothèques IKEA qui sont effondrées là, tu vois, ça a été l'horreur pour les refaire.
Effectivement, on travaille toujours avec du mobilier de fournisseurs spécialisés. Donc il y a un certain nombre de marques spécialisées sur le marché pour justement qui sont pensées pour. Mais alors en même temps c'est pas vraiment une question qu'on se pose aujourd'hui parce que les missions des bibliothèques ont beaucoup évolué. Il y a 30 ans, quand on achetait un bouquin, on se disait qu'on allait le garder en rayon un certain nombre d'années. Maintenant, la rotation est de plus en plus fréquente. On désherbe beaucoup. Oui, parce que les bibliothécaires ont un vocabulaire un peu particulier.
Donc assez fleuri pour quand même désherber.
Voilà, nous pratiquons notamment le désherbage, qui consiste à retirer des rayonnages les ouvrages pour faire de la place pour les nouveaux. Puisque le principe de la bibliothèque, c'est d'avoir une documentation constamment actualisée. Mais il ne faut pas me brancher là-dessus, parce que sinon, je peux en parler pendant très très longtemps. C'est un peu dans l'évolution des bibliothèques aujourd'hui. Alors, ceux à qui ça déplaît, genre les lecteurs du Monde diplomatique, par exemple, disent que maintenant on fait des bibliothèques sans livres. C'est pas du tout vrai. On continue de faire des bibliothèques avec des livres, mais on met beaucoup moins de rayonnage et beaucoup moins de livres qu'on a pu le faire à l'époque de l'essor des bibliothèques en France, c'est-à-dire dans les années 70.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile avec Charlotte Hénard pour parler des bibliothèques et des médiathèques publiques. Alors Charlotte, est-ce que les bibliothèques publiques sont-elles toujours des cathédrales où l'on parle tout bas sous le regard inquisiteur des autres moines cisterciens ?
Pas du tout, ce ne sont plus du tout des temples du savoir. Je dirais plutôt que ce sont des lieux d'échange.
Vraiment ?
Oui, des lieux.
Ça, on peut causer
Oui, on peut tout à fait parler normalement. On peut même désormais manger dans la bibliothèque.
Oui, c'est vrai que vous avez ouvert un espace traiteur et tout ça.
C'est ça, oui, on a ouvert un café, mais ça n'a rien d'original. Hein. Maintenant, on a beaucoup de bibliothèques qui ouvrent.
Oui, toutes les FNAC font ça.
Qui proposent à minima une machine à café ou... quand on peut ouvrir un café directement. Donc oui, on peut à la bibliothèque venir pour faire plein d'autres choses.
Je prends un espresso et un film des frères Cohen avec Georges Clooney.
Voilà, c'est tout à fait possible.
D'accord.
Après, on peut y faire plein de choses en fait en bibliothèque. C'est un peu ça qui signe la bibliothèque d'aujourd'hui, dont les missions ont beaucoup évolué, comme je disais tout à l'heure, et notamment on peut s'y retrouver, y retrouver des copains, y travailler si on a envie, mais on n'est pas obligé, et donc on peut manger, dormir.
Et on peut y aller avec des gosses de primaire qui vont courir partout.
Par exemple, on peut... Juste pour l'anecdote, sur la question du dormir en bibliothèque, nous, on s'attache à ne pas réveiller les usagers qui s'endorment. Et nous en avons beaucoup, parce que les fauteuils sont très confortables. La seule condition, c'est de dormir assis et chaussé. Voilà,
d'accord.
Ça figure dans le règlement.
Et c'est bon à savoir. Ils songeront la prochaine fois que... j'espère surtout que les auditeurs, ils songeront la prochaine fois qu'ils auront faire une sieste. Quand est-on passé du concept de bibliothèque à médiathèque? Et pourquoi? Dans la doc que j'ai pour la préparation de cette émission et qu'on retrouvera d'ailleurs sur la page web de cette émission, il me semble que le concept soit apparu dans les années 1970.
Oui, plutôt les années 80, je dirais. Mmh. C'est au moment de la diversification. D'abord, c'est l'essor des bibliothèques publiques dans les années 70, où vraiment les bibliothèques publiques ont été fortement soutenues par les municipalités à l'époque. Maintenant, on parle de communautés de communes, on parle des autres échelons administratifs, mais on a commencé par les bibliothèques municipales et on a commencé à prêter du disque et de la vidéo. Donc, c'est pour ça que les bibliothèques sont devenues des médiathèques. Et puis, finalement, c'est resté dans le langage courant et on parle maintenant plutôt de médiathèques. Même si les supports commencent eux-mêmes à disparaître après un essor très, très important.
Oui, mais justement, on passait de la bibliothèque où il suffit de savoir lire pour pouvoir lire un livre à des médias où, en fait, il faut un appareil lecteur qui, des fois, a une durée de vie définie parce que les technologies changent et tout ça. Ça a dû être une révolution de se dire c'est pas la bibliothèque de Babel ou celle du nom de la rose immuable.
En fait, on vient en bibliothèque pour tout un tas de raisons. C'est toujours la même chose. Pour lire, mais aussi pour apprendre, pour se distraire, pour le loisir. Et donc... peu importe finalement le support, le principe des bibliothèques, c'est qu'elles sont encyclopédiques, donc elles traitent de tous les sujets. Et donc, on peut venir se renseigner en bibliothèque sur n'importe quel sujet du monde qui existe. C'est bien le principe même du classement, le principe même de la classification adoptée en France, alias D-Way, que tu dois connaître.
La CDU, mais on en a parlé avant le début de la seconde partie.
Alors la CDU, c'est un autre classement décimal, c'est pas le même. Il y a deux classements décimaux.
Alors peut-être que quand auditeur tu écouteras cette émission, j'aurais parlé d'un truc, mais sache que la chronique je l'aurais faite après. C'est par pure flemme intellectuelle. Et du coup justement, comment a-t-on adapté la classification décimale universelle pour par exemple le logiciel?
Ah bah alors justement c'est un problème puisque en fait
on passe en base exa.
On a pour habitude d'indexer les documents avec une classification décimales et puis avec des mots matières qui sont très directement issus du classement des fiches papier dans des petites caisses en bois. Donc on met à la fois on utilise à la fois une classification décimale et à la fois une indexation par mots-clés. Désormais, les ordinateurs permettent de rechercher par occurrence, donc ça n'a plus vraiment de sens pour vous d'expliquer ça, mais il faut savoir que les langages bibliothéconomiques sont des langages construits. Donc l'indexation rameau par mots-clés, ce sont des indices qui sont construits, qui continuent d'être construits, même avec la puissance de feu des moteurs de recherche, des logiciels de bibliothèque. Mais pour revenir à ta question initiale, c'était quoi le classement décimal? Comment on a fait pour classer le logiciel? L'informatique, c'est une catastrophe parce que au début de la classification, ça n'existe pas. Donc cette classification, elle est évolutive. Au fil de l'année, on est à la 24e édition, je crois, ou 25e édition, traduite en français. Et chaque année, on rajoute en fait des indices pour pour intégrer les nouvelles connaissances et les nouvelles notions. Et d'ailleurs, je ne connais pas par cœur l'indice de l'informatique. C'est très mal, il faudrait que je le vérifie.
Alors pourquoi n'imprime-t-on pas le code CDU dans un livre sur la tranche à côté de l'ISBN et de l'EAN, le GTIN 13 pour les pros?
Je vois pas trop à quoi ça servirait, puisque en fait la CDU, c'est un classement décimal utilisé surtout en bibliothèque universitaire. D'accord. Nous on utilise en bibliothèque publique plutôt la D-Way. C'est un peu technique comme conversation, là.
On s'en fout, on est sur FMR.
On s'en fout, d'accord.
Tu es au côté.
Ça n'a pas trop d'intérêt, puisqu'en fait, ce chiffre qu'on appose à une particularité, c'est qu'il définit à la fois le contenu du livre et à la fois, il définit l'emplacement du livre sur les rayonnages dans la bibliothèque. Donc il a deux fonctions, à la fois de transcrire le sens, donc 750 histoire de la peinture, mmh. 751 théorie de la peinture, etc., etc. On construit en fait des indices avec des chiffres, mais c'est aussi ce chiffre qui va déterminer son classement sur les rayonnages pour qu'un usager soit autonome et puisse le retrouver lui-même.
Et avoir
et c'est ce qu'on appelle la cote.
Et avoir pratiquement le réflexe musculaire, voilà, d'aller le chercher à tel endroit sans
voilà,
dire. Vous avez le dernier William Gibson?
Sans doute.
Il n'y a pas que des livres, des revues et des jeux de plateau. Il y a aussi des fonds spécialisés accessibles numériquement chez vous. Comme par exemple, bah tiens, on en a parlé en novembre lorsqu'on a fait notre série sur la radio numérique, l'INA.
Effectivement, alors l'INA, c'est assez particulier. C'est assez marrant d'ailleurs que tu me parles de l'INA parce qu'il se trouve que j'ai été chargée au moment de la création de la bibliothèque de négocier les droits d'auteur, enfin les droits d'achat des films à l'INA, puisqu'on avait monté à l'époque une base de données multimédia. On disait multimédia à l'époque. C'est délicieusement
bon, les années 80.
Rétro. Ah non, pas du tout, c'était pas les années 80, c'était 2002. 2004,
d'accord,
voilà, et on avait monté une plateforme dans laquelle c'était complètement dingue à l'époque. Un usager pouvait venir consulter des films sur un ordinateur tout seul comme un grand dans la médiathèque. On a évidemment, on est rapidement passé à autre chose, mais il se trouve que l'INA, elle, a continué de par ses missions de conservation et de diffusion du patrimoine des images produites à la télévision et à la radio. Il se trouve que l'INA occupe une des piles de l'Arche Marengo, dans lequel se situe la médiathèque José Cabanis, et donc à ce titre-là propose des stations dans lesquelles il est possible d'accéder à l'immense richesse de tout ce patrimoine qui a été conservé depuis le début.
On ne parle pas de ce que l'on trouve sur le site ina.fr, on parle,
non,
vraiment,
on
de,
parle vraiment des stations
fond.
Oui, du fond.
Et il y a un autre poste à Toulouse de consultation qui est à la Cinémathèque de Toulouse.
Qui se trouve à la Bibliothèque d'études et du patrimoine, je dirais même plus. Il y en a peut-être un à la Cinémathèque, mais il y en a un aussi à la Bibliothèque d'études et du patrimoine, dite Bibliothèque de Périgord, pour ceux qui connaissent.
C'est trop au nord de Toulouse.
Et juste, j'aimerais rajouter quelque chose, parce que il y a quelque chose d'intéressant. Il se trouve que l'INA était basée à une époque dans les locaux de la BNF pour poursuivre cette mission d'archivage. Et donc, les postes étaient à une époque accessibles uniquement à la BNF. Et il se trouve que la BNF a entrepris aussi un travail vachement intéressant depuis presque une vingtaine d'années, qui consiste en l'archivage du web. Et donc, il se trouve que j'ai été amenée à travailler aussi sur des campagnes d'identification de sites web, et pour lequel on a, à l'époque, archivé à la main, en les rentrant avec nos petites mains, les URL des sites web.
Je me demande
web.
Pourquoi le site de mon ancienne émission est archivé par l'INA, d'ailleurs.
Eh bien, voilà, par exemple.
On revient au brick and mortar, pardon, au papier et à l'encre. Y a-t-il un service de réparation des livres abîmés? Parce que c'est vrai que des fois, il y a des emprunteurs qui sont peu sérieux. J'ai le cas d'un certain Vladimir Ilitch Lénine à la bibliothèque de Genève, qui les rendait complètement annotés au crayon.
Oui.
Ça
existe encore. Plus Lénine, mais en tout cas, les usagers qui utilisent les
sont-ils
les
tous communistes?
C'est une bonne question.
On n'a que des bonnes questions.
On a effectivement un atelier de reliure à la médiathèque qui fait des petites réparations quand c'est possible. En général, qui consolide plutôt les reliures. Et on le fait d'ailleurs, en général, avant de mettre les documents en rayon, plutôt que de le faire a posteriori, ce qui est plus coûteux et plus compliqué.
Mieux vaut prévenir que guérir.
Après, certaines bibliothèques ont des ateliers de reliure très spécialisés, notamment pour les fonds patrimoniaux. C'est le cas aussi avec l'atelier Erasme à Toulouse.
Et du coup, comment ces services font pour réparer les jeux de plateau qui sont en prêt, les DVD, les jeux vidéo?
Alors, les DVD, on scanne les jaquettes et on les archive sur nos serveurs de façon à pouvoir les réimprimer quand elles sont abîmées. Pour ce qui est des jeux de plateau, on a une ludothèque qui gère ça, et puis on prête aussi des jeux à la médiathèque, mais qui sont plutôt à consulter sur place quand même, pour être vraiment exact. On les répare pas en général. En fait, les pièces sont perdues et au bout d'un moment, ben, on les rachète.
Je fais une petite pause et ce n'est pas prévu dans mon script, mais juste pour saluer les services bibliothécaires d'une mairie qui est en banlieue de Toulouse, à savoir celle de Colomiers, où ils sont très spécialisés bande dessinée et que je salue de par ma carrière que j'ai faite pendant 25 ans de chroniqueur BD.
C'est un très très bel équipement en plus, le pavillon blanc. Moi, je les aime beaucoup. Ils font un super boulot avec un centre d'art intégré et puis avec le festival de la BD de Colomiers. Mais nous sommes aussi en partenariat avec le festival de BD et on accueille régulièrement des expos à cette occasion.
Qui a lieu en novembre, sauf les novembres de confinement, bien sûr. Je crois que vous acceptez les dons pour enrichir vos collections.
Alors, nous n'acceptons pas les dons pour enrichir nos collections.
C'est pour ça que ma collection d'Animeland est allée à la
Cinémathèque
de Toulouse.
Mais qu'est-ce qui vous manque, sincèrement? Qu'est-ce qui nous manque? De toute façon, une bibliothèque de lecture publique n'a pas vocation à faire de la conservation. Notre mission principale, c'est la diffusion, c'est faire qu'un usager, un lecteur rencontre le document qu'il ne pensait pas, auquel il ne pensait pas. C'est le royaume de la sérampilité, la bibliothèque. C'est magique pour ça. Donc on n'a pas de fonction de conservation. Donc, il nous manque plein de choses, puisque les ouvrages...
Comme dit Sire de Baskerville, Aldo, reviens ici, vite. Il faut qu'on aille au pavillon indien.
On n'a pas... Il nous manque forcément des choses. Alors, on a une politique assez volontariste de prise en compte des suggestions des usagers. C'est-à-dire qu'on a des cahiers de suggestions et on essaye de répondre à 100% des demandes pour justement compléter le choix qui est fait par les bibliothécaires.
Donc le sixième tome des comédies par je ne sais plus quel philosophe
grec. Si nous avons les cinq premiers tomes, oui, en effet. C'est un motif de refus si vous demandez le sixième tome et que nous n'avons pas les cinq premiers. Soit on va acheter les cinq premiers et le sixième, soit on va plutôt réorienter le... Les bibliothèques, c'est des plateformes, en fait. On a été très, très en avance sur la question de la mise en réseau. On a créé des catalogues collectifs nationaux à une époque où c'était pas du tout à la mode, avant le web. Et donc, le CCFN, enfin, ou le SUDOC, qui sont des catalogues nationaux, répertorient et localisent les ouvrages. Des principales bibliothèques universitaires, mais aussi bibliothèques détenant un patrimoine, et aussi les collections de périodiques. Et donc, on préfère plutôt, en général, que d'acheter un ouvrage très spécialisé. On sait faire aussi, on sait renvoyer vers la bonne bibliothèque et à ce moment-là, faire appel au prêt inter.
Donc, on peut avoir un exemple d'une économie con en appelant, si tu appelles la bibliothèque de Riley sous la mer, et s'il y a un service de livraison, bien évidemment.
Alors, c'est pas une blague, le prêt inter bibliothèque au niveau national fonctionne très bien.
Il existait déjà au niveau local depuis un bail avec les bibliothèques départementales qui prêtaient dans les communes et tout ça.
Alors, c'est pas du tout la même chose.
Oui, c'est pas la même chose, j'ai bien dit, mais ça a commencé par là aussi.
Alors, les bibliothèques départementales, c'est 45. Le prêt inter, je pense que c'est enterré. Bonne question, j'irai vérifier. Alors, je ne l'ai pas écrit dans le métier de bibliothécaire, mais j'irai vérifier.
Que j'ai oublié de citer comme livre.
Édité au Cercle de la Librairie.
Je suis désolé, je
l'ai pas lu. L'année dernière. Oh, bah, tu ne l'as pas lu, c'est normal. Il fait presque 700 pages. J'ai eu l'honneur et l'avantage de...
Tu n'as pas vu le manuel d'écriture du système X-Window, toi?
Non, mais...
25 tomes chez Aurélie.
Disons que j'ai... Ah, Aurélie. Mais pourquoi tu dis Aurélie? C'est Aurélie. C'est deux L. Le métier de bibliothécaire que j'ai eu la chance de diriger pour la dernière édition, oui.
Et à ce sujet, justement.
Au Cercle de la Librairie, donc.
Et à ce sujet, justement. Est-ce qu'il y a des bouquins techniques que vous êtes prêts à prendre et d'autres où vous dites, non, là, c'est vraiment trop spécifique. On ne va pas dépenser du budget là-dessus.
Ça dépend vraiment. Alors là, pour le coup, les critères d'acquisition d'une bibliothèque publique, c'est prennent en compte toujours le contexte dans lequel s'inscrit la bibliothèque. Si on est à côté, je sais pas, si on est à côté d'une école des beaux-arts qui ne dispose pas d'un centre de documentation, on va forcément acheter plus de livres d'art parce qu'on sait que les étudiants en art vont fréquenter cette bibliothèque et de fait, on adapte aussi la bibliothèque à son public. Sur les ouvrages techniques, à vrai dire, la principale difficulté, c'est d'actualiser les collections. C'est-à-dire en informatique, par exemple, sur les logiciels, on va plutôt être dans une logique de vulgarisation. Donc acheter ce qui correspond au plus grand nombre, parce que les ouvrages spécialisés auront peu d'usagers, peu de lecteurs.
Donc le regex sans peine, aucune chance.
Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie.
Moi, je suis super
le regex. Je vais vérifier sur mon appli.
Comment on fait maintenant, puisque vous faites aussi depuis plus d'une dizaine d'années, d'ailleurs, il me semble, du prêt de e-book. Comment on fait pour prêter ou non?
Alors, c'est un vrai sujet. Alors, quand tu dis...
Parce que je me souviens qu'il y avait toute une histoire à propos des DRM, il y a eu des négociations avec les éditeurs. Ça a duré très longtemps, cette histoire. Je crois qu'on commençait à en parler dès 2005.
Oui, effectivement. Alors, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, il existe une plateforme qui s'appelle PNB qui permet de faire du prêt en bibliothèque. Et nous allons le proposer à partir de l'année prochaine.
2022?
2021.
Ah, bon, d'accord, ok.
Voilà.
Je te rappelle qu'on enregistre en 2020 et que c'est diffusé en 2021.
Voilà. Donc, en 2021, dans quelques jours, on pourra effectivement emprunter des livres via une plateforme qui est une plateforme commune, de s'inscrire dans la chaîne du livre et de ne pas mettre de côté les libraires. C'est un système complexe qui a été extrêmement critiqué dans la profession. En même temps, c'est le seul qui existe aujourd'hui. Donc, si une bibliothèque publique veut prêter des livres numériques, elle n'a pas 36 solutions. Il faut qu'elle passe par cette plateforme, quoi qu'on en pense.
Et quoi qu'il en coûte.
Et quoi qu'il en coûte, effectivement.
Effectivement. Parce que je crois que c'était dans Livre Hebdo, ils en parlaient dès 2002. Et ça a été un long serpent de mer qui était question de faire une rémunération par prêt. Ce qui était contre le système de bibliothèque.
Les bibliothécaires ont toujours été opposés à la rémunération, ce qu'on a appelé la rémunération à l'acte. Ce qui explique qu'on a une loi qui s'appelle la loi sur le droit de prêt, qui garantit en fait une rémunération des auteurs et des éditeurs. Et je précise en parenthèse et avec un petit sourire ironique, et particulièrement des éditeurs, voilà. Donc via le droit de prêt, nous effectuons, en nous basant sur les statistiques de prêt des bibliothèques, un reversement est organisé auprès des sociétés des ayants droit.
Que l'on saluera par pure politesse. Je tiens à signaler que nous enregistrons donc en décembre 2020, alors que le site de la médiathèque de Toulouse, et d'ailleurs l'ensemble des bibliothèques de France, de Navarre et d'Outre-mer, excepté la Nouvelle-Calédonie, ne peuvent pas accepter actuellement de public, mais que la médiathèque de Toulouse reste accessible en click and collect, si je me trompe.
Alors, nous avons aujourd'hui, depuis l'ordonnance du... Enfin, l'ordonnance. Non, c'est pas une ordonnance. Bref. Depuis le décret du 15 décembre, nous avons à nouveau le droit d'accueillir du public. Mais effectivement, l'année 2020 a été une période très compliquée pour les bibliothèques, puisqu'au sortir de confinement, il nous a fallu attendre pour être autorisés à recevoir du public. Donc la plupart des bibliothèques en France ont monté ce qu'on a appelé des drives, des bibliodrives, des click and collect, voilà. Et c'est ce qu'on a fait.
Le fast-food de la nourriture spirituelle, voilà. Comme un huitième des restaurateurs en France sont passés chez Deliveroo.
Si tu me demandes mon avis sur la question, je peux te le donner.
Vas-y. Mais c'est uniquement ton avis, on est bien d'accord.
Ça n'est que mon avis. C'est bien le minimum qu'on puisse faire, mais le minimum n'est pas suffisant. Donc au regard de nos missions, et notamment de notre mission de lien social qu'on remplit de plus en plus, c'est le minimum qu'on puisse faire de proposer des livres sur réservation, mais en même temps, ça n'est pas complètement satisfaisant, puisque on perd une partie des usagers qui n'ont pas accès à un ordinateur.
Passer par un ordinateur avant, on peut et pas arriver pour demander.
Alors, on a monté, nous, justement, j'étais très attentive à cette question-là, une ligne téléphonique qui met en relation l'usager avec un bibliothécaire qui fait la réservation à la place de l'usager. Donc, il peut faire à la fois du conseil et à la fois les opérations techniques de réservation pour que l'usager vienne chercher ses documents 48 heures après.
Allô, passez-moi le standard. Ça a été un changement, du coup, sur le public. Il y avait un public qui était plus en demande, du coup ?
Quand je dis que c'est le minimum qu'on puisse faire, c'est parce que, en fait, du coup, on dessert, le public est déjà habitué aux bibliothèques, qui est un public régulier. Et on ne s'en satisfait pas complètement parce que justement, une des missions des bibliothèques, c'est aussi d'aller chercher les non, ce qu'on appelle nous les non-publics. Donc d'aller toujours au devant, de sortir de la bibliothèque, d'aller vers les gens pour qui la bibliothèque n'est pas un lieu naturel. Le drive attire assez peu des gens qui ne savent pas déjà ce qu'est une bibliothèque et ce qu'on peut y faire. C'est un peu la limite du système. C'est important, hein, je continue à penser qu'il fallait le faire, mais en tant que bibliothécaire, on ne peut pas se satisfaire uniquement de ce service-là.
Et on te remercie pour cette mission de service public. Il y avait néanmoins des expos qui étaient prévues avant le confinement, qui ont été montées avant le confinement. Donc, j'ai une question de notre partenaire, l'association de Silicium. Comment elle va, la borne d'arcade qu'ils vous ont installée pour l'asso sur l'expo sur le rétro gaming ?
Alors là, j'en ai aucune idée.
On m'avait dit qu'il y avait des high scores régulièrement battus dessus, en interne.
Alors là, vraiment, tu me poses une colle, je ne sais pas. Mais bon, voilà, quand on ne sait pas, on ne sait pas.
Hein. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Charlotte Hénard pour parler des bibliothèques et médiathèques publiques. Alors, on ne va pas parler que de numérique. Je sais que tu es une grande voyageuse et que ton kiff, c'est de visiter les bibliothèques publiques remarquables. Quelles sont les plus surprenantes que tu aies vues ?
Alors,
je tiens à signaler que tu as un compte Instagram. Elle est terrible.
Alors, en fait, j'ai un compte, effectivement, un compte Instagram dans lequel je diffuse pas mal de photos de bibliothèques que je visite.
C'est bibliotourisme.
C'est un peu, voilà, je suis une adepte du bibliotourisme. À force, c'est devenu une deuxième nature, c'est-à-dire je travaille en bibliothèque toute la journée, mais j'y passe aussi mes week-ends, mes vacances. Voilà, quand on part, on fait beaucoup de road trip, on part en général à l'aventure, et nos points d'étape sont souvent des bibliothèques. Pourquoi ? Pourquoi vas-tu me dire ? Eh bien, c'est très simple. Dans une bibliothèque, il y fait chaud l'hiver, il y fait frais l'été. Il y a des toilettes, il y a du wifi, il y a des gens sympas. Parfois, il y a même du café. Donc, c'est idéal quand on voyage.
C'est comme moi, il y a un espace de coworking.
Exactement.
Je vais en week-end dans une ville, il faut qu'il y ait un espace de coworking.
On a besoin de recharger son téléphone sur une borne. Bon. Du coup, y a effectivement le compte Instagram, mais il y a surtout, comme j'ai remarqué que les photos sur Instagram commençaient à avoir un peu de succès et que ça avait l'air d'intéresser la communauté des bibliothécaires qui est en ligne, on est à peu près, on est quelques centaines comme ça sur Twitter, on est 300-400 à peu près sur Twitter à se parler régulièrement autour de notre obsession commune les bibliothèques. Et du coup, j'ai fait un IFTT depuis Instagram et je propose maintenant à peu près 22 000 images de bibliothèques sur Flickr. Et c'est surtout sur Flickr, en fait. Et j'insiste un peu là-dessus parce que les images sont diffusées en Creative Commons, en CC BY SA. Et c'est assez... apparemment, c'est très apprécié par la communauté. C'est à peu près 3000 clics par jour. Donc, c'est... Voilà. Apparemment, ça a trouvé son intérêt.
Satisfais complètement, tu vois, mon public habituel à partir du moment où tu as parlé de IFTT entre des services, tu vois, en SaaS et en plus de Creative Commons. Mais ça vaut le coup. Et donc, rappelle...
Et alors, juste pour répondre à ta question, parce que je digresse beaucoup, moi aussi, hein, c'est ma bibliothèque préférée... Elles sont pas toutes remarquables de la même façon. Évidemment, si je vais à Berlin, je vais aller à la Stadtbibliothek ou dans des bibliothèques universitaires dont l'architecture est absolument...
Brutaliste.
Voilà, impressionnante, brutaliste, cinéphilique, tout ce qu'on veut. C'est très beau et c'est merveilleux de s'y retrouver, mais je vais aussi beaucoup dans des petites bibliothèques. Parce que je trouve que c'est aussi là qu'on y trouve de l'inventivité, de la créativité pour faire du lien toujours mieux avec les publics. Et ma bibliothèque préférée du moment, et j'aime bien les citer, c'est la bibliothèque qui s'appelle L'Atelier, qui est à Pêche-Beaunieux, c'est à Toulouse.
C'est pas loin en plus.
Voilà, c'est Axel Clamins qui s'occupe de cet endroit avec une super équipe. Et ils ont la particularité... de faire un accueil jeune en même temps. Et cette bibliothèque est absolument étonnante, drôle, onirique. Elle bouge tout le temps, elle est en mouvement permanent. Il y a un baby-foot. C'est le rêve des jeunes et des moins jeunes. C'est une réussite de bibliothèque, c'est un bijou et voilà.
Et c'est, donc, une vraie vie, c'est une vraie place centrale. Ça, oui, on a réinventé l'Agora.
C'est vraiment ce qu'on appelle la bibliothèque tiers-lieu. Alors en plus, ils travaillent avec Bakelite, qui sont des gens qu'on connaît bien à Toulouse.
Très bien,
voilà.
Aussi.
Donc ils travaillent beaucoup avec. Et ils sont en train de refaire encore leurs espaces, mais ils sont tout le temps en mouvement, très inventifs. Graphiquement, c'est magnifique. Et en même temps, c'est très. Comment dire? C'est très proche, c'est-à-dire c'est pas impressionnant. Et chacun, qu'on ait 70 piges ou 17, chacun y trouve son compte. Et je trouve que c'est une vraie réussite. Et voilà.
Je voudrais que tu parles de deux bibliothèques.
Oui.
Que tu nous fais rêver. Une bibliothèque dans un fjord sur un bateau et une bibliothèque des enfants.
Quand même, il faut savoir que Toulouse a eu une bibliothèque sur une péniche.
Oui. Elle n'existe plus.
Elle n'existe plus depuis les années 2000. Nous, on n'était pas encore à Toulouse à l'époque, mais on en a beaucoup entendu parler. Des bibliothèques pour la jeunesse, je crois que ma préférée, c'est la DOC à Delft, donc aux Pays-Bas, qui est une bibliothèque qui a conçu ses meubles pour que le contact soit doux au toucher. Et donc, tous les meubles sont arrondis. Ça fait un peu peur comme ça quand on le dit, mais pour les enfants, c'est merveilleux parce que sur les bacs à BD, on ne se cogne pas. Voilà, c'est une des plus chouettes bibliothèques pour les enfants. Mmh. C'est là qu'on y trouve notamment des tentes. Donc ils ont mis, bêtement, hein, ça ne coûte pas grand-chose, une tente Ikea, ça doit coûter 35 euros.
Ou Décathlon. Ouais.
Voilà, j'ai dit Ikea, pardon. Décathlon.
On s'en fout, tant voilà, qu'on dit, différentes marques. Voilà.
Une tente Décathlon et dans lequel ils ont mis un ghetto blaster et des doudous et les enfants s'amusent beaucoup là-dedans. Et ils prêtent aussi, il y a un truc qui est assez chouette et qu'on fait pas nous assez en France, certainement parce qu'on n'est pas encore assez détendu sur ces questions-là, ils prêtent des livres avec des personnages récurrents et ils prêtent le doudou qui va bien avec. Et donc ça, et donc du coup, ils ont fait des petits ensembles avec des petits sacs à dos en plastique transparent, et donc on peut partir avec Tintin et sa figurine. Enfin, je dis Tintin, mais bon, c'est pas Tintin.
Nicredouel l'ayant droit, à mon avis, il doit
je cherche, voilà, voilà.
Mais on voit l'idée, oui. Et tu m'avais aussi parlé d'une bibliothèque
avec une cheminée, avec une cheminée.
Et une autre qui avait une vie nocturne. Où la nuit on peut y accéder.
C'est pas une bibliothèque, ce sont des bibliothèques, c'est ce qu'on trouve au Danemark. Mmh. Où effectivement on y est allé l'été dernier. Et là, alors justement, pour essayer d'éviter l'effet vitrine de je vais voir la bibliothèque de Copenhague qui forcément va être tip top parce que c'est Copenhague, on est allé dans les.
Avec la petite sirène et tout.
Voilà, on est allé dans les quartiers, dans les banlieues de Copenhague. Là où les populations, c'est pas des bobos et où on a les mêmes problématiques qu'en France, eh bien, les bibliothèques dans ces quartiers-là aussi sont ouvertes la nuit. Il suffit de rentrer avec sa carte de santé au Danemark. Pour rentrer dans la bibliothèque...
On prend la carte vitale et on
voilà, on rentre avec sa carte vitale, on bip et on fait ce qu'on veut la nuit dans la bibliothèque. Alors, j'ai discuté avec les bibliothécaires danois, parce qu'évidemment, pour un Français, ça m'interroge sur le rôle du bibliothécaire, pas tant que fin.
En fait, c'est plutôt le croisement des données santé et
Alors, après, c'est le Danemark, hein, c'est très différent. Les pays du Nord ont un rapport complètement différent avec ces choses-là. Ce qui était étonnant, c'est que j'ai discuté avec des Danois, donc dans une bibliothèque, de petite bibliothèque de quartier qui faisait, je sais pas, 400 mètres carrés. Et je leur ai demandé, mais comment est-ce que... Et elles m'ont expliqué qu'en fait, elles-mêmes étaient pas du tout convaincues par ce système. Et elles-mêmes avaient très peur de voir des SDF s'installer. Et l'anecdote rigolote, c'est que la fille m'a dit... oui, ben en fait, un jour, c'est vrai, on a eu une chaise...
Des dealers de livres, comme dans Fahrenheit 451 ?
Non, un jour, on a eu effectivement une chaise renversée. Voilà. Alors, bon, ça pose plein de questions. Il y a...
Donc, en France, la bibliothèque si... est un lieu de culture et en même temps de civisme.
Ah ben oui, oui, mais ça, c'est très danois. Alors, il y a une bibliothèque en France qui a commencé une expérimentation.
Ouais. Toujours alors, avec la carte vitale
sans la carte vitale, je ne sais pas où ils en sont en ce moment, mais ils avaient lancé ça l'année dernière. C'est dans la ville de Lomme, qui est dans le nord, donc dans les Hauts-de-France, où effectivement l'accès était possible après le départ des bibliothécaires, entre 18h et 23h ou minuit. Et puis, pour des raisons légales, ça n'a pas pu se faire, parce que là, pour des questions de sécurité des personnes... Donc ça voulait dire qu'il fallait embaucher un ADS, enfin un adjoint de sécurité pour surveiller les lieux. Et je ne sais pas où en est l'expérimentation. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a actuellement le leader du marché. Il y a deux fournisseurs de systèmes de sécurité RFID en bibliothèque qui sont, je les cite, puisqu'ils sont deux, je peux les citer, c'est 3M et NEDAP. Mmh. Et 3M a une politique assez offensive sur la question de l'accès dans les bibliothèques sans humains présents pour assurer l'accueil. Donc je pense que ça, on le verra dans les 5 ans qui viennent. Je pense qu'on va voir des bibliothèques ouvertes jour et nuit.
Revenons au livre numérique. Comment gérer le livre numérique en fait, est-ce qu'il faut prêter des liseuses du coup pour des gens qui n'ont pas forcément ce matériel-là, avec des titres qui sont exclusifs sur des maths?
Je sens que c'est une question qui t'interroge beaucoup, la question du rapport à la technique.
Non, c'est une émission sur le numérique, c'est dans notre tagline.
C'est la question du rapport à la technique et à l'outil lecture. Tu m'as déjà posé la question tout à l'heure, j'avais tranquillement éludé, mais là cette fois-ci je vais répondre. Alors en fait, historiquement dans les bibliothèques, on a prêté tous les supports, on a prêté du laserdisc, on a prêté de la vidéo. Maintenant, on prête des DVD. Maintenant, on commence à prêter. Je reviendrai après sur le prêt d'objet, parce que ça, c'est aussi une autre part. Ouais. C'est autre chose. On a prêté des Walkman à l'époque. On a prêté. En ce moment, on prête à la médiathèque José Cabanis. Il est possible d'emprunter des platines, puisqu'on vous prête des vinyles. On vous prête aussi l'outil pour pouvoir lire les vinyles. Donc, on vous prête des platines.
Ça pèse lourd, une
portable.
Technics 1200. MK2.
Ouais, mais non,
ah non, c'est un
portable.
Manche-disque, hein.
Oui, c'est presque un manche-disque. C'est une petite mallette, c'est très solide, c'est très pratique et c'est pas cher.
Je tiens à signaler, à deux pas de votre médiathèque, il y a des anciens de radio éphémère qui sont dans un bus et qui ont monté un magasin de vinyle.
Oui.
Je les salue amicalement parce que on devait enregistrer chez eux notre série sur le son numérique. Ça n'a pas été faisable cette année. Donc vraiment, je les salue. C'est à voir leur aménagement intérieur du bus est terrible.
Ouais, on est très content d'être voisins avec eux. Pour revenir à la question de la technique et des DRM, à vrai dire, le prêt du livre numérique tel qu'il se pratique en France est une aberration, puisqu'il est calqué sur le prêt du livre papier. C'est-à-dire qu'on nous autorise à prêter une version numérique. Quand elle est empruntée, on n'a pas le droit d'emprunter une autre version. Ce qui est une aberration numérique totale. C'est en totale contradiction.
On maintient
avec
le principe de rareté physique, quoi.
Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que le prêt de livres numériques ne fonctionne pas en France, parce qu'on nous oblige légalement à faire du 1 pour 1. Et ça n'a aucun sens à l'heure du numérique de faire ça. Bon, bref, vous savez ce que j'en pense. Donc, du coup, on utilise des DRM qui sont soit chronodégradables, soit... soit qui disparaissent avec le prêt quand l'ouvrage est virtuellement rendu. Mais c'est effectivement une limite à la diffusion du savoir et de la connaissance. Pour résumer rapidement.
Oui, bien d'accord. Alors qu'à côté, on a une taxe, par exemple, sur les photocopies de livres et tout ça. On va parler d'un tout autre sujet, puisque cette année à Hong Kong est passée une loi très controversée sur la sécurité nationale qui a été passée au forceps par Pékin contre l'avis de la population locale, alors que c'est être indépendant. Et du coup, les bibliothèques de Hong Kong retirent les livres polémiques qui seraient susceptibles de troubles à l'ordre public, sachant que c'est extrêmement vague dans le cadre de cette loi. Dans une telle situation, est-ce que toi, tu as commencé à imaginer des scénarios de crise si jamais ça arriverait en France? Et je ne pense pas forcément à Fahrenheit 451, puisqu'on l'a cité.
Comment dire? Être bibliothécaire, c'est faire des choix. Acquérir des documents, c'est faire des choix. Faire des choix, ça veut dire renoncer. Mmh. Et ça veut dire ne pas acheter certains titres. La censure, elle n'est jamais loin. Elle n'est pas toujours... On a toujours beaucoup parlé de la censure politique, de la censure... de l'interdiction.
Je me souviens que la bibliothécaire municipale de la ville d'Orange, quand le Front National a conquis cette ville, avait fait pas mal de bruit et tout ça là-dessus.
En fait, sans revenir sur...
Non, on
ne
va pas revenir
éléments,
dessus,
voilà.
C'était une autre époque, c'était un autre millénaire.
C'est que... Disons que les bibliothécaires sont indépendants dans la pratique de leur métier et dans la pratique de leur choix professionnel. Pour autant, ils doivent s'inscrire dans un contexte, donc on ne va pas non plus se voiler la face. Tout est évidemment en fonction de budget et de moyens. Donc plus on a des moyens, plus la politique d'acquisition est vaste. Acquérir, c'est renoncer. Donc, une politique d'acquisition, elle n'est jamais parfaite. Il faut toujours remettre à l'ouvrage ces questions-là d'accès le plus large possible à des domaines de pensée, à des pensées minoritaires, à des choses qui ne sont pas uniquement les best-sellers des listes des hebdomadaires à la mode. On va dire. Après, sur la question de la censure, on a eu des débats là assez importants dans le milieu des bibliothèques et pour sortir du contexte toulousain sur la question de cet écrivain fort décrié, Gabriel Matzneff, par exemple.
Oui.
Donc la Bibliothèque du Québec, par exemple, a déclaré très très rapidement, en quelques jours, elle a déclaré qu'elle retirait tous les ouvrages de Matzneff de ses fonds.
Ils ont ceux qui ont loupé une marche, c'est le journal personnel de l'écrivain en question, et il décrivait d'une manière crue,
explicite.
Et explicite, des années 80, quand même, des scènes d'amour pédophile, voire de viol.
Alors, ils n'ont pas enlevé que les exemplaires du journal. Et c'est bien ça qui posait problème. C'est
d'accord.
Qu'ils ont enlevé le journal, mais aussi ses œuvres de fiction. Donc, les bibliothécaires français, globalement, se sont plutôt prononcés pour le maintien des œuvres de Matzneff dans les bibliothèques. On a des solutions pour ne pas faire la promotion d'un livre pour ne pas être taxé de mise en avant. On a ce qu'on appelle des réserves. On peut décrire au catalogue une œuvre et la communiquer sur demande. On n'est pas obligé de la mettre en présentoir et en tête de gondole. Pour autant, moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut avoir l'éventail le plus large possible d'ouvrages. Et donc, y compris, moi, j'ai beaucoup travaillé en sciences sociales et en sciences humaines. J'ai aussi beaucoup travaillé en histoire de l'art. J'ai plutôt tendance à contrarier mes propres opinions et donc à acheter exactement, très exactement, ce qui me déplaît. Parce que je sais que si ça me déplaît, ça va plaire aussi beaucoup à d'autres. C'est une façon un peu inversée de voir les choses, mais qui peut être intéressante, sachant que...
C'est tout en ton honneur de participer à la vie démocratique, quand même.
On va préciser aussi, quand même, que 90% de l'édition est progressiste. On va dire progressiste, pour pas... En sciences sociales et en sciences humaines, par exemple, on pourrait être accusé d'être trop gauchiste, progressiste, que sais-je, hein, j'ai pas les bons adjectifs, mais c'est aussi les bibliothèques sont le reflet de l'édition. Mmh. On a un libre arbitre, exercer son esprit critique, c'est aussi à ça que servent les bibliothèques. On a des moyens d'avoir, quand on dessert un million de personnes, eh ben oui, on est le reflet de la population qu'on dessert.
Et comme je le dis, c'est un service public et en même temps le moyen de l'expression démocratique. Donc c'est bien que justement il y ait des idées, même sur lesquelles on n'est pas exactement d'accord, qui puissent être consultées.
Mais justement parce qu'on n'est pas d'accord. J'arrive même un peu plus loin.
On arrive à une question qui est particulièrement touchy. Je ne t'oblige absolument pas à répondre. Bien évidemment, tu peux me faire Camoulox ou la réponse des Jean-Pierre. Est-ce que, comme la Bibliothèque nationale ou celle du Vatican, il existe dans les bibliothèques municipales de Toulouse un enfer, selon mes renseignements qui viennent de certains journalistes très bien informés? Celui-ci se trouve dans l'aile gauche du Capitole, première entrée, troisième bureau, à droite, dans les toilettes, derrière le bureau du maire.
Eh bien, évidemment, je ne répondrai pas à cette question. Alors, cela étant, il y a des enfers dans pratiquement toutes les bibliothèques municipales classées, c'est-à-dire qui ont des fonds patrimoniaux anciens.
Et oui, forcément.
Puisque l'enfer, hein, c'était le nom de l'emplacement dans lequel était conservé, caché et inaccessible, mais au demeurant qui continuait d'exister, des livres interdits. Mmh. D'ailleurs, il y a une publication qui s'appelle « L'enfer de la Bibliothèque nationale ».
Oui, très très beau livre.
Constituée de différents textes très érotiques qui sont assez remarquables.
Et à ce qui paraît, la pièce justement des enfers à Bibliothèque nationale était remarquable, puisque depuis le fond a été déplacé. Beaucoup de bibliothèques publiques sont très sensibilisées sur la vie privée et la protection numérique. Et Charlotte, je te remercie parce que tu nous avais convié avec une partie de l'équipe de CPU à mener une crypto-partie que l'on a diffusée justement sur cette antenne en plusieurs épisodes. D'où vient historiquement en fait cet engagement sur la vie privée?
Alors là, c'est une colle. D'où ça vient historiquement cette...
Est-ce que ça vient de Ray Bradbury, justement, Fahrenheit 451?
Ouais, non, mais je crois qu'il y a une relation très, très logique. Les bibliothécaires, ils ont un rapport au savoir et à la connaissance, historiquement. Et je pense que ça vient de là, en fait. Mmh. C'est aussi... Si même sur une expérience individuelle, moi, je me souviens, la première fois que j'ai utilisé Internet, c'était en 95. On a proposé à la bibliothèque dans laquelle je travaillais l'accès au public en 1996 en France. Et je me souviens très bien, un des premiers usagers que j'ai vu, il était sur un site de voitures pour acheter une voiture. Enfin, pour regarder des voitures. Mmh. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est assez sensationnel. Et j'avais à côté de moi des collègues qui disaient, mais enfin, quelle honte, ils pourraient faire des recherches un petit peu élaborées sur les catalogues de la BNF, etc. Et pour moi, non, au contraire, c'était l'ouverture totale vers un savoir quasi infini.
Et pour rappeler aux petits jeunes, en 96 à Toulouse, il y avait un cybercafé qui s'appelait Cybernet, d'ailleurs, qui était aussi un FAI, qui desservait une soixantaine de clients, et ils avaient une liaison spécialisée à 64 kilobits seconde. Donc c'est dire si on était, c'était vraiment embryonnaire.
Bah là, et c'est l'archéologie.
L'accès était vraiment compliqué, donc c'était énorme.
Certaines bibliothèques ont commencé, donc c'est l'ABM de Lyon qui a commencé en France, et c'était en 96. Mmh. Et tout de suite, ça a été une évidence pour les bibliothécaires que c'était le champ des possibles, en fait. Mmh. Le champ du savoir, tout d'un coup, qui s'élargissait, qui sortait des bouquins et c'était magique. Enfin, moi, j'en garde un souvenir assez émerveillé. Et ça vient de là aussi, cette relation à une culture libre, ouverte, sans verrou, sans limite. Alors, bon, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de limites, les GAFAM, bon. Mais je crois qu'il y a un attachement des bibliothécaires au commun. Alors, on parle beaucoup des biens communs, c'est très à la mode, c'est la nouvelle tarte à la crème, mais si on parle de savoir commun, par exemple...
Tu vas froisser un autre bibliothécaire qui nous écoute.
Savoir commun, qui est une association sur les libres, sur les communs de la connaissance, a été cofondée par des bibliothécaires et c'est pas un hasard.
Que proposent les équipes de ta médiathèque sur la connaissance informatique ou la compréhension de sa vie privée?
Alors, il y a plusieurs champs d'action autour du numérique. Pour nous, il y a un champ d'action qui est essentiel, c'est celui de l'électronisme. Alors, c'est un mot à la mode, bon. Mais enfin, on voit, on a des gens qui viennent à la bibliothèque pour accéder à un ordinateur,
et
tout simplement.
Et tu me dis, ça ressemble, ça, on revient à la mission inaugurée en 96, quoi.
C'est vraiment la première des missions qui est très liée au lien social, puisque les gens qui n'ont pas accès ni à un ordinateur, ni à Internet chez eux viennent en bibliothèque. Donc nous, on remplit cette mission-là. Après, on a aussi des collègues qui sont de plus en plus spécialisés dans le numérique et qui proposent des ateliers sur tout ce qui peut se faire dans le champ. Bon, alors beaucoup du libre, hein, puisque traditionnellement, le libre, il est très représenté en bibliothèque, même si les DSI ne sont pas toujours de cet avis, mais il y a des on fait beaucoup d'ateliers, on fait des install parties, on fait des repair cafés, on fait toutes ces choses qui nous permettent d'échanger et puis de c'est le principe aussi d'accueillir des communautés, c'est-à-dire qu'on accueille une communauté à un moment donné qui se rassemble autour du libre. Ça permet d'amener les gens au libre et de créer là du lien grâce au lieu bibliothèque et grâce à notre médiation. Parce que finalement, le maître mot de la bibliothèque, c'est ça, c'est la question de la médiation, faire le lien entre quelqu'un et un savoir.
Charlotte, ta dernière question uniquement pour le bonus web. Comme ça, je n'ai pas obligé de dire à l'antenne sur FMR qu'on se connaît bien, qu'on connaît nos bibliothèques personnelles respectives. Quel bouquin tu aimerais me piquer dans ma bibliothèque si je l'ai?
Eh ben alors, je vais tricher, l'histoire du café.
C'est pas la mienne, c'est le de ma compagne. Et je te dis dans ce cas-là, quel bouquin j'ai envie de piquer chez toi?
Ouais.
J'ai pas envie de piquer un bouquin, j'ai envie de passer une nuit entière à lire des livres chez toi. Charlotte, merci beaucoup.
Eh ben merci à toi, c'était bien.
C'était
un peu impressionnant, mais bien.
C'était avec un immense plaisir et je te rassure, toi aussi, tu en as une très grosse bibliothèque.
Plaisir partagé, merci.